face à Duhamel avec ce soir l'avocat Charles Consigny. Bonsoir.
Bonsoir.
Alain Duhamel est avec nous, bien sûr. Bonsoir, bonsoir. Alain. On va bien évidemment évoquer l'intervention du président de la République ce soir qui va aux Français expliquer la stratégie vis-à-vis de l'Ukraine. Mais d'abord, on va passer par Moscou, retrouver Jérémy Normand en direct pour BFM TV. Parce que Jérémy, vous êtes en train de visiter une exposition patriotique russe.
Oui, absolument. La guerre, quelle guerre? Regardez, plongez dans cette Russie éternelle, cette Russie des grands espaces, cette Russie prospère et tranquille. C'est un mythe, c'est une promesse, celle de Vladimir Poutine, qu'il adresse à son peuple appelé à venir voter en masse ce week-end. Nous sommes au cœur de la capitale, au cœur de Moscou, dans un immense hall des expositions, rempli de pavillons où sont mises à l'honneur les différentes régions du pays. Ici, par exemple, une région où voilà, les familles viennent se prendre en photo, loin, très loin des images de la guerre que nous voyons, nous, dans nos pays. Nous avons discuté avec beaucoup de ces visiteurs qui viennent en famille, d'anciens soldats aussi qui viennent ici, voir ce pourquoi ils se battent, cette Russie fière d'elle-même, et ils nous disent évidemment qu'ils voteront Vladimir Poutine ce week-end. D'ailleurs, juste à la sortie de cette exposition, a été installé un bureau de vote pour ceux qui adhèrent à ce projet fantasmé d'une Russie fière d'elle-même vendue par Vladimir Poutine. Et bien, les électeurs peuvent aller voter directement à la sortie de cette exposition à partir de demain.
Voilà, Jérémy Normand avec Étienne Grelet en direct de Moscou pour BFM TV. Donc, ce soir, c'est notre président Emmanuel Macron qui va consacrer son intervention à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Alors, il sera bien sûr question de stratégie politique française, européenne, face à Vladimir Poutine. Est-ce qu'il faut une union sacrée face à la Russie ?
On n'est pas en 1914, l'Ukraine n'est pas la France, donc il n'y aura pas d'union sacrée. Il n'y a pas d'union sacrée. Il y a eu un mouvement de sympathie initial qui s'affaiblit, mais qui existe encore, en faveur de l'Ukraine, bien entendu. Mais quand on regarde les choses, c'est vrai qu'il y a de l'empathie pour les Ukrainiens. C'est vrai que le principe de l'aide française n'est pas remis en cause, même si son montant est discuté plus qu'il ne l'était auparavant.
L'aide militaire de 3 milliards, les Français sont très partagés
sur le
sondage.
Je le sais,
51%, ceux qui ne regardent pas forcément, 51% sont opposés, 49% sont favorables.
Bon, après tout, l'accord de sécurité est passé largement aussi bien à l'Assemblée qu'au Sénat. Mais d'une part, les insoumis ont voté contre. Les insoumis, par exemple, chez les jeunes, c'est plus du quart des jeunes. Donc ça n'est pas négligeable. Mais Marine Le Pen a préféré courageusement s'abstenir. Et en plus de ça, on voit très bien que dans l'opinion, on comprend de plus en plus mal la nécessité d'un effort de plus en plus grand. Or, le problème, c'est qu'il faut que l'effort soit de plus en plus grand. Et le problème ce soir d'Emmanuel Macron, ça sera deux choses. D'une part, de clarifier ce qu'il a dit à propos des troupes au sol, puisque ça a visiblement choqué beaucoup les Français. Et d'autre part, expliquer pourquoi une victoire de Poutine en Ukraine serait une catastrophe pour la France en termes d'autonomie, de liberté, de démocratie, bien entendu, mais aussi de niveau de vie, parce qu'à ce moment-là, Poutine, avec d'une part l'énergie, gaz, pétrole, et d'autre part le blé russe et ukrainien, nous tiendrait à la gorge.
Charles Consigny, il doit rassurer le président Macron ce soir ?
Je ne pense pas qu'ils doivent mentir, en tout cas. Rassurer, il ne faut pas mentir. Je pense qu'en effet, il peut clarifier le point de l'envoi des troupes au sol, parce que je pense que c'est ce qui clive le plus dans la classe politique française et dans la société française. Moi, la question de l'union sacrée, il ne s'agit pas de benoîtement s'abstenir d'avoir des débats, des contestations, parce qu'on voudrait faire une union sacrée, parce que c'est un sujet d'intérêt général qui nous dépasse. Je pense qu'on peut trouver l'union tout court, presque l'unanimité politique et dans l'opinion sur la nécessité d'aider l'Ukraine d'une certaine manière, c'est-à-dire en envoyant des munitions, des armes, en équipant l'armée ukrainienne, en l'aidant à tenir face à la Russie. Puisque aujourd'hui, tout le monde a bien compris que, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut aider l'Ukraine à tenir le plus longtemps possible pour arriver au stade où on va pouvoir, en fait, négocier. Il faudra quand même lâcher un petit peu à Poutine, mais l'idée, c'est quand même non pas de repousser intégralement les Russes, c'est de les empêcher de faire tomber Kiev, de faire tomber l'Ukraine. Oui. Ça, je pense que si on pose les termes du débat comme ça, c'est-à-dire quel est le débat, c'est envoyer des armes à l'Ukraine, je pense qu'on peut être d'accord. Et la question après, comme vous l'avez dit Alain, c'est combien est-ce qu'on est prêt à mettre ? Mais et je pense que là, on a un vrai sujet budgétaire sur notre capacité militaire. On est très loin de ce qu'il faudrait qu'on fasse.
Les Français ne sont pas d'accord entre eux sur le type d'aide et les formations politiques non plus. Vous avez, tout le monde est d'accord, par exemple, pour qu'il y ait une aide alimentaire, s'il le faut. Sur les armes défensives, certains les refusaient au début, les acceptent maintenant. Sur les armes offensives, certains s'y opposent encore aujourd'hui. Et sur l'accroissement de l'effort militaire, et en particulier des armes qui sont les plus recherchées, et la France en fournit certaines, pas assez, mais certaines qui sont particulièrement précieuses, il y a une bonne partie des responsables politiques qui y sont favorables, il y en a qui n'y sont pas favorables.
Franchement, Alain, à part des hommes politiques qui seraient soit des marginaux, soit des gens sous influence russe, je vois pas quel homme politique aujourd'hui ne veut pas que la France et l'Europe envoient des munitions à l'Ukraine. Puisque de toute façon, le front est stabilisé, il n'est plus du tout question que les Ukrainiens envahissent la Russie. Donc aujourd'hui, tout le monde est d'accord.
Bon, il n'a jamais été question que les Ukrainiens envahissent la Russie.
Il y a eu à un moment donné 2-3 bombes qui sont tombées où tout le monde a commencé à paniquer.
Ce n'était pas une invasion.
Voilà. Mais la question, c'est est-ce qu'on est en capacité de le faire ? Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est déjà, on a un problème budgétaire. On consacre 2% de notre budget par an, du budget de l'État, à l'armée. Les experts disent qu'il faudrait entre 3 et 4%.
Et le budget de l'armée est sensiblement plus important que ce qu'il était auparavant. Il y a eu un effort financier pour le budget de l'armée française qui est considérable par rapport à ce qui existait avant.
Avant, ça dépend à quelle date vous vous placez.
Si je dis 20 ans, vous ne me direz pas le contraire.
Oui, mais pourquoi ? Parce qu'on a
mais 20 ans, mais je pourrais vous dire 10 ans.
Parce que c'est la période durant laquelle on a fait toutes les conneries. À l'époque où on a construit notre arsenal nucléaire, on a investi énormément d'argent. Et tout le monde se félicite aujourd'hui qu'on soit en capacité nucléaire de se défendre. C'est ce qui fait qu'on est à peu près protégé.
Je ne vous dirai pas le contraire.
Bon, et dans la période que vous décrivez, ça a été une période où on s'est laissé désindustrialiser. On a perdu notre capacité industrielle.
Mais il faut dire
et aujourd'hui, on n'est plus en capacité même de fabriquer les munitions qu'on voudrait livrer à l'Ukraine. C'est le sujet.
Il faut dire les choses comme elles sont. C'est depuis 2017 qu'il y a un effort budgétaire significatif qui a été fait et qui...
Mais pas suffisant pour fournir les munitions.
Il faut voir d'où on partait, d'une part, et d'autre part, il faut prendre en considération le fait que le plus gros morceau, de toute façon, de l'effort de défense, ça reste le nucléaire.
Oui, mais excusez-moi.
Ça
oui,
reste.
D'accord. Mais
si, si.
Non, mais la question.
Financièrement, il n'y a
question,
pas de doute.
La question, Alain, elle est majeure. Elle est majeure. C'est les choix qu'une nation est prête à faire. Aujourd'hui, on consacre, j'ai regardé les chiffres, 400 milliards d'euros à la défense tous les 5 ans. Il faudrait 100 milliards de plus. Est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on a envie, collectivement,
on a plus d'argent.
Pour se payer une armée capable de nous défendre, est-ce qu'on peut mettre 100 milliards
mais
de
non,
plus
non, il faut faire des économies.
Et tous les experts disent il faut faire ces 100 milliards si on veut avoir une armée en capacité de se défendre. Il faut faire un effort un peu moins significatif, mais quand même, si on veut fabriquer les armes, par exemple, j'ai regardé aussi là les chiffres, un programme de missiles, ça coûte 2 milliards pour fabriquer des missiles et les livrer à l'Ukraine. C'est quelque chose qu'on peut faire en coopération avec d'autres pays. Si on arrive à mettre suffisamment de pays autour de la table, on peut diviser le coût, et là, on peut avancer.
Alors, deux choses.
Et c'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Il y a une réunion en ce moment à l'école de guerre, justement, là-dessus.
Deux choses.
Avec 2500 représentants de toute l'Europe.
La première, c'est que de même que je vous disais que l'effort financier, en réalité, c'est depuis 10 ans, et donc avant, il y a eu des erreurs qui ont été faites. Et d'autre part, qu'aujourd'hui, ce qui manque, et pourtant la France pousse là aussi depuis des années dans cette direction, c'est qu'il y ait une industrie européenne de l'armement.
Oui.
Qui nous manque terriblement.
On partage les coûts. Oui.
Et qui fait que le paradoxe, c'est que d'ailleurs, tout le monde est obligé d'acheter l'essentiel aux États-Unis, parce que c'est eux qui ont une capacité de production que d'ailleurs ils trouvent encore insuffisante en ce moment. Mais Je suis d'accord, ça demande un énorme effort financier, si on veut être vraiment au niveau, un énorme effort financier. Le problème, c'est qu'il nous faut également un énorme effort financier pour les hôpitaux, un énorme financier, effort financier pour les écoles,
oui, mais Alain,
etc.
Alain, et non, faire mais, des économies.
Ça n'est pas de la démagogie, ce que je dis.
Non, bien sûr.
C'est de la réalité.
Oui, mais vous reconnaîtrez qu'on fait très peu d'économies. Franchement, il y a plein de domaines sur lesquels on pourrait faire des économies.
On le dit tout le temps et personne n'arrive à le faire.
Bah, excusez-moi, moi j'ai une marotte par exemple, je suis désolé, on consacre 2,5 milliards par an à l'audiovisuel public, on peut en enlever 1,5 milliard, il restera quand même 1 milliard et on pourra quand même faire des séries télé sur le service public. Donc je suis désolé, on pourrait faire des économies, la question est sérieuse, c'est est-ce que les Français se rendent compte à quel point on est en fait démunis sur le plan militaire, est-ce qu'on a envie de se réarmer, pourquoi est-ce qu'on se bat, qu'est-ce qu'on défend en effet sur le front ukrainien, et aussi est-ce qu'on se prémunit des risques futur. Il y a en ce moment un stress énorme sur la frontière libanaise entre Israël et le Liban, parce que tout le monde se demande si Israël va pas se mettre à canarder le...
Et qu'il y a 700 soldats français exactement à cet endroit.
Et si tout à coup il y a une guerre entre le Hezbollah et Israël, on sera quand même sacrément dans la difficulté avec un ouvre-fond qui va s'ouvrir dans cette région. Donc oui, on est dans une période de grosse tension militaire. Est-ce qu'on veut s'adapter ou pas ?
Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas un effort important à faire sur le plan financier. J'insiste sur le fait que la solution probablement la plus efficace serait que ce soit une industrie européenne d'armement avec des spécificités.
Alors, revenons à la question initiale. Faut-il l'union sacrée face à Poutine ?
Est-ce que peut-on
ce soir, Emmanuel Macron doit-il trouver les mots justement pour essayer de tenir un consensus, rassurer sur ses propos controversés et essayer d'emmener tous les Français vers sa stratégie ?
Je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est qu'il a une clarification à faire sur ce qu'il avait dit à propos des troupes au sol, dit, pas dit, interprété, mais il doit dire dans son esprit de quoi il s'agit. D'ailleurs, il n'y a pas que les Français qui s'intéressent à sa réponse, il y a aussi les autres Européens. Donc ça va de soi, je dirais. Mais je pense que pour l'essentiel, il va falloir qu'il explique aux Français à quel point ce qui se passe en Ukraine, ça nous concerne, nous, directement, dans quelle proportion. Faut se rendre compte que si Poutine obtient un énorme succès, comme c'est évidemment pas souhaitable, mais imaginable en Ukraine, ça signifie que son pouvoir militaire et en plus son cynisme politique seront au paroxysme et que nous, on sera insuffisamment armés en face de ça.
Vous clarifiez.
Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment, dans ce cas, il faut expliquer aux Français pourquoi on est directement impliqué par les conséquences de ce qui se passe en Ukraine.
Clarification d'autant plus nécessaire que selon nos confrères du Monde, le président de la République aurait tenu ses propos. Ce sont des propos rapportés.
Hein, propos rapportés.
Oui, justement, c'est pour ça que...
Ça fait 70 ans que je vois que...
Ça date du 21 février.
Le Monde, quand même, Alain.
Lors d'une...
ressemble à son
d'une soirée réalisée. Et il a dit, de toute façon, dans l'année qui vient, je vais devoir envoyer des mecs à Odessa. Voilà ce qu'il dit.
Ça ressemble à son langage. Moi, si vous voulez, j'espère qu'il ne fait pas preuve de désinvolture sur un sujet d'une gravité aussi exceptionnelle. J'espère aussi qu'il ne fait pas de politique. Et je dis j'espère, c'est malheureusement un vœu pieux.
La campagne électorale a commencé.
Il serait bien le seul à ne pas en faire.
Non, mais écoutez. Mais non, mais je suis désolé.
Dans 3 mois, il y a un vote.
Non, mais c'est,
lui-même a dit qu'il s'engagerait dans cette campagne.
Écoutez. Mais on n'a pas instrumentalisé. Il ne faut pas instrumentaliser la situation en Ukraine pour faire une campagne. Et en effet, j'ai vu le meeting de Renaissance pour lancer la campagne des européennes. On avait quand même bien l'impression qu'ils essayaient d'effrayer les boomers pour que ceux-ci, comme d'habitude,
un effet drapeau.
Un coup ils ont peur du Covid, un coup ils ont peur de l'extrême droite, un coup ils ont peur du.
Ils ont raison d'avoir peur de Poutine quand même.
Et grâce à ça,
mais on instrumentaliserait.
Je trouve Alain, ça ne peut pas être un argument électoral.
Écoutez, c'est très simple. Poutine, il s'est exprimé hier. On a d'ailleurs donné des extraits à plusieurs reprises. Il parle... Emmanuel Macron, quand il parle de troupes au sol, en l'occurrence, c'est probablement, non pas c'est pas des bataillons ou des régiments, c'est probablement soit des forces spéciales, soit des techniciens qui aident. Comme, vraisemblablement... Comme il y en a déjà des Français, des Anglais, etc. Bon, mais au-delà de ça, s'il s'agit de démontrer que on est directement menacé, Quand Poutine tient les propos qu'il vient de tenir sur le nucléaire, en considérant que c'était une arme qui ne comptait pas, c'était gentil de sa part de le préciser, utilisée en Ukraine, mais que pour le reste, c'était quelque chose dont il avait toujours dit que si les intérêts de la Russie, si l'indépendance, si le sol national, etc., étaient menacés, il les emploierait. Alors, je ne vous dis pas, heureusement, qu'il le ferait, bien entendu, mais le fait même d'en parler avec cette désinvolture...
Mais moi, je pense qu'il peut le faire.
Nous écharper ensuite...
Il nous provoque. Alors, est-ce que le président doit dire M. Poutine, pense... nous aussi, nous sommes
non.
prêts
bah, Je pense que malheureusement, c'est pour ça qu'il faut quand même être intelligent dans ces conflits très compliqués.
Ça, c'est difficile.
C'est difficile, évidemment, et on se félicite de ne pas être en position de prendre les décisions, parce qu'elles sont très difficiles à prendre. Mais moi, je ne vois pas ce qui empêcherait demain Poutine de faire une attaque nucléaire sur le sol ukrainien. Est-ce que pour autant, vous auriez une réplique nucléaire de la part des puissances nucléaires ? Non.
Non, pas forcément.
Il aura fait son attaque nucléaire sur le sol ukrainien. Il leur a montré à tout le monde qu'il peut le faire, qu'il est assez jusqu'au boutiste, disons, si, pour ne pas dire pire, pour le faire. Et vous, aurez, et vous n'aurez pas de réaction.
Si
les experts pensent plutôt qu'il ne le fera pas, qu'il n'ira pas jusque-là.
Si quelqu'un, pour la première fois depuis 1945, utilisait l'arme atomique, on ne sait pas ce que seraient les répliques, pour
bien
une
sûr.
Raison très simple,
bien sûr.
C'est que ça ne s'est jamais produit.
Oui, mais on ne peut pas dire avec certitude qu'on répliquerait avec le nucléaire, certainement pas d'ailleurs.
Je ne sais pas si vous vous intéressiez déjà à cette époque-là à la politique, mais il y a eu un moment où un ministre de la Défense français était partisan d'armes tactiques sur le terrain, susceptibles d'être utilisées comme une sorte de premier degré de l'utilisation du nucléaire. Bon, heureusement, tout ça a été balayé. Mais c'est pour ça qu'il ne faut jamais dire qu'on n'en sait rien. À partir du moment où le premier transgresse et donc utilise l'arme nucléaire, n'importe quoi peut se produire. Et raison de plus pour que les Européens et les Américains soient unis en face de Poutine.
Merci.
Raison de plus.
Merci Charles Consigny, merci Alain Duhamel.